Les voyages forment la jeunesse, ils disent. J'ai fait l'Écosse en autocar, je vous le conseille pas, hein. C'est un peu comme l'Australie en kangourou, faut pas le faire. Je suis allé en Grèce aussi, en bateau, le capitaine a dit « Tout le monde a fini d'écrire, je jette l'ancre !» Bon, la Laponie, c'est sympa, j'ai été réveillé un matin, brum brum, « Police, qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du 23 novembre au 27 avril ?»
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare,
avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Philippe, Franck,
Florine et avec nos rapporteuses très spéciales Cathy et Fabrine. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Aujourd'hui les amis, nous partons en voyage ensemble. Voyage intérieur, voyage itinérance, voyage loisir. Cette émission sera jonchée de chansons choisies par nos grangereuses, Agnès, Linda, Babouche, Vigdis, Sandra et Renaud.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Des nuages en marécage, du vent d'Espagne en pluie d'Équateur, au-dessus des capitales, des idées fatales regardent l'océan.
Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Six, chez les... Voyage ! Voyage ! Dans tout le royaume, sur les dunes du Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama, voyage ! Voyage ! Ne t'arrête pas ! Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan.
Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, voyage, voyage et jamais ne reviens. Voyage, voyage.
Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage.
Je passais vacances à l'hôpital. Je ne sais si je vais mal, mais j'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, comme je sentais tout à coup mon cœur chavirer en regardant les ombres danser.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Allez Franck, habituellement tu nous mènes en bateau, là tu nous emmènes en voyage ?
Voilà une émission briques et pavés qui nous appelle au voyage et à l'évasion. Riche idée. En ce qui me concerne, je ménage ma monture, mais en tout cas je vais pas très loin, et puisque je ne voyage que très très rarement. En tout cas hors de France. J'ai un bilan carbone plutôt respectable. Pour autant, j'utilise un GAFA, parce que j'utilise la voiture Google. Je vais sur Maps, voir à quoi ressemble tel et tel paysage sur tel et tel lieu du globe, si tant est que la voiture Google ait pu pénétrer le pays. C'est ce que j'appelle le voyage du pauvre. Je termine sobrement cette chronique en citant l'anagramme de voyage qui est goyave. Et voilà bien un fruit qui appelle au voyage, qui appelle au milieu tropical, à l'évasion, quand on est européo-centré. Pour finir, pour moi, à mes yeux, les plus belles expressions avec le mot voyage. La vie est un voyage en parachute. Le voyage reste la part du rêve. Le plus beau voyage est d'abord de se prouver sa liberté. On voyage pour changer non de lieu, mais d'idée. L'enfance reste un voyage malheureusement oublié. Si la vie est un voyage, alors il est court, essayons de le faire si possible en première classe. Et puis la plus connue de toutes, me semble-t-il, lire c'est voyager, voyager c'est lire.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Bon Philippe, ça t'inspire quoi ce mot voyage? Même si on le dit deux fois, voyage, voyage.
Voyage et littérature. Pour continuer à voyager en maîtrisant notre empreinte carbone, rien de mieux que les souvenirs et la littérature. On peut aussi se mettre à l'ombre pour écouter Radio B. Me revient en mémoire le livre de Huysmans, À rebours, paru en 1884 et que j'ai lu jadis. Le personnage principal se nomme Déshyacinthe. Dandy désenchanté et malade, il trouve tout de même l'énergie de préparer un voyage pour l'Angleterre afin de se ressaisir. Mais le plus beau dans le voyage, n'est-ce pas cette excitation des préparatifs en amont et cette rassurance tiède qui nous enveloppe au retour? Le mieux dans le voyage serait l'idée même du voyage plutôt que le voyage lui-même. Pour Déshyacinthe, vraisemblablement, c'est ça. Il n'ira pas en Angleterre, même pas jusqu'à la gare Saint-Lazare. Son voyage se termine dans une taverne avant un retour au bercail bien mérité. Extrait. Il n'avait plus que le temps de courir à la gare et une immense aversion pour le voyage, un impérieux besoin de rester tranquille s'imposait avec une volonté de plus en plus accusée, de plus en plus tenace. Pensif, il laissa s'écouler les minutes, se coupant ainsi la retraite, se disant « Maintenant, il faudrait se précipiter au guichet, se bousculer au bagage. Quel ennui, quelle corvée ce serait !» Puis, se répétant une fois de plus « En somme, j'ai éprouvé et j'ai vu ce que je voulais éprouver et voir. Je suis saturé de vie anglaise depuis mon départ. Il faudrait être fou pour aller perdre, par un maladroit déplacement, d'impérissables sensations. » Enfin, quelle aberration ai-je donc eue pour avoir tenté de renier des idées anciennes, pour avoir condamné les dociles fantasmagories de ma cervelle, pour avoir ainsi qu'un véritable béjaune, cru à la nécessité, à la curiosité, à l'intérêt d'une excursion. Tiens, fit-il en regardant sa montre, mais l'heure est venue de rentrer au logis. Cette fois, il se dressa sur ses jambes, sortit, commanda au cocher de le reconduire à la gare de Sceaux, et il revint avec ses malles, ses paquets, ses valises, ses couvertures, ses parapluies et ses cannes à Fontenay, ressentant l'éreintement physique et la fatigue morale d'un homme qui rejoint son chez-soi après un long et périlleux voyage.
Je voudrais faire le tour du monde. Par les Indes, le Pacifique. Le Bosphore et les Amériques. Retrouver quelques personnages morts à mon âge. Le tour du monde. Des morts. Sur terre, en mer et dans le ciel.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
D'y voir, Fabrine, t'as bien un petit bouquin à nous proposer qui parle du voyage. Allez, on t'écoute.
Si une hirondelle ne fait pas le printemps, la réapparition des vides-greniers, farfouilles et autres brocantes dans les villages marque bien le retour des beaux jours. En effet, chaque bourgade, ou presque, a sa date de vide-grenier entre le début du printemps et celui de l'automne. Alors quel rapport avec le voyage, me direz-vous? Eh bien, avec Cathy, Philippe et Franck, nous arpentons régulièrement ces allées bigarrées où l'on peut trouver des objets hétéroclites qui cherchent une nouvelle vie dans un nouveau foyer. Et c'est parfois l'occasion de voyages insolites. Voyages géographiques, avec des souvenirs de vacances, voyage dans le temps avec des objets oubliés et permettant des sauts dans le passé, voyages imaginaires avec des livres nous emmenant aux confins de l'imaginaire, justement, mais aussi, et c'est ma dernière découverte, un voyage au cœur de la lutte des classes. En effet, en allant à la farfouille de Jaya en mai dernier, je n'imaginais pas faire une incursion au cœur du 16e arrondissement de Paris. C'est pourtant là où m'a conduite ma trouvaille, le petit livre « L'enquête sociologique et dessinée » de Monique Pinson-Charlot, Michel Pinson et Étienne Léo-Croart, petit livre intitulé « Panique dans le 16e ». Pour la modique somme d'1,50€, j'ai pu, pendant le temps de ma lecture, m'immerger dans la bataille qui a fait rage en 2016 lorsque les pouvoirs publics parisiens ont pris la décision de créer un centre pour personnes sans abri en lisière du bois de Boulogne, dans le très chic et très fermé 16e arrondissement. Avec justesse et brio, comme toujours, le couple Pinson-Charlot met au jour les stratégies d'accaparement des territoires et la culture de l'entre-soi qui ferme ses portes à toute promiscuité avec le peuple. Stratégies qui s'inscrivent et se donnent en héritage à chaque nouvelle génération. Qui l'eût cru, les farfouilles mènent à tout, et même jusqu'à Bernard Arnault. Vous l'aurez compris, je vous recommande vivement le livre « Panique dans le 16e », une enquête illustrée et sociologique de Monique Pinson-Charlot, Michel Pinson et Étienne Lécroart. Bonne lecture !
Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
First thing I met was a fly with a buzz and the sky with no the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Les vacances des minotes et minots. Les vacances et le voyage, ce graal absolu pour petits et grands. Mais, en creux, ayons une pensée et même plus pour celles et ceux qui ne partent pas. Être privé de vacances, c'est la double peine. Tu n'es pas parti, le 1, et 2, tu es comme un con en revenant au travail fin août quand les collègues te lancent. Alors, tu as fait quoi de beau pendant tes vacances ? L'éducation nationale aussi se met les pieds dans le tapis et joue la maladresse en commençant le début septembre par le traditionnel « Racontez le fait marquant de vos vacances ». Certains pensent voyager sur Mars avec des fusées lambda, l'observatoire des inégalités nous fait réatterrir sur Terre. On est loin de 1936 et des départs en tandem jusqu'au camping en famille. En 2022, 46% des Français ne partent pas en vacances. Les causes du non-départ tiennent en deux mots. Les finances et le réseau. Les foyers à bas revenus ne peuvent pas se payer le luxe de claquer un demi-mois de SMIC pour une semaine d'hébergement touristique. Et, double effet qui se coule, moins tu es riche, moins tu as des amis ou de la famille ou des relations qui te prêtent une maison secondaire ou qui t'accueillent dans leur grand logement. Il y a bien sûr des aides aux vacances pour les enfants, via la CAF. Certains employeurs octroient des chèques vacances, mais cela ne suffit pas ou plus. L'associatif et le secteur caritatif alerte sur la situation depuis longtemps et se démène comme le Secours Populaire, par exemple. Ne pas partir, c'est ne pas changer de cadre, de rythme. Je vous passe le couplet sur le réchauffement climatique, mais celles et ceux qui ne partent pas en vacances habitent rarement dans des pavillons avec piscine et parcs arborés. Le Covid, en désocialisant les jeunes et les enfants, a eu des effets désastreux sur la jeunesse. Le non-accès aux vacances est du même acabit. Mais nous sommes dans un pays où il est difficile de poser ces vrais et beaux principes sans retomber dans la fange de l'invective et de la communication outrancière. Par l'intermédiaire de François Ruffin, la NUPES a proposé mi-juin une série de mesures pour rendre effectif le droit aux vacances. Et parmi les mesures, on pouvait noter des tickets de train à tarif réduit ou l'accès à la formation du BAFA gratuitement. Quelques jours après, l'éditorialiste du quotidien L'Opinion, Olivier Bacusa, lance un contre-feu et estime, sur ce droit aux vacances, que c'est, je le cite, « une question qui ne se réglera pas par ce réflexe quasi pavlovien et démagogique à l'approche de l'été de vouloir avoir recours, en toutes circonstances, au mythe d'un État nounou, omnipotent, qui, au chapitre du soutien aux plus démunis, a déjà fait beaucoup. » Que le journal de L'Opinion ne soit pas à la botte de la NUPES, c'est bien normal. Mais, si à l'occasion, le même journal L'Opinion veut rappeler le contenu de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, initiée par l'UNICEF, avec ses 54 articles, ce serait bien. En effet, un des articles dit que chaque enfant a le droit de jouer et d'avoir des loisirs. L'Opinion pourra aussi parler de l'étude ENABE rendue publique le 20 juin par Santé publique France sur la souffrance mentale des enfants et des ados, ou interviewer le professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré, APHP, quand il dit « Souvent, on se dit qu'un enfant de moins de 11 ans ne peut pas être déprimé ou que seule une partie de la population est concernée. » C'est faux. Nous, adultes, grands citoyens, décideurs politiques, avons bel et bien un devoir de vacances pour les minots et les minotes. Et à choisir, je préfère un état nounou sans qu'il soit omnipotent à un état aux abonnés absents. Bonnes vacances à tous.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. À l'essieu est belle, tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. L'air est si doux dans la bruyère, au mont sans souci. Dieu les enfants aime la sieste d'eau tout étourdie. les filles de Cadet-Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au Mont Sans Souci.
L'émission qui dégrange.
Alors Cathy, c'est quoi cette histoire de GCU? C'est en lien avec le voyage?
Une émission sur les vacances. Chouette. Occasion de parler du GCU alors. Le GCU, qu'est-ce que c'est? Le GCU, c'est le groupement de campeurs universitaires. Une association née en 1937 à la suite du Front Populaire qui instaure les congés payés en France, comme vous le savez, des campings au départ réservés aux membres de l'éducation nationale. Il est issu de la MAIF, Mutuelle des Instituteurs de France, créée en 1934, dont les membres souhaitaient, je cite, « partager ensemble les joies du camping en échange d'une modique somme de cotisation » prenait outre la laïcité, l'autogestion et la tolérance. Le camping se démocratise au lendemain de la guerre, le scoutisme laïque séduit par son esprit communautaire, solidaire et pédagogique. Et les instituteurs, ces hussards noirs de la République, sont épris de justice sociale avec une forme d'élitisme revendiqué. D'ailleurs, l'ouverture du GCU à d'autres publics à partir de 1991 a suscité de forts débats au sein de l'association. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient réserver l'accès uniquement à la grande famille des enseignants. Bon, c'est un collègue CPE qui m'avait parlé du GCU. Et non, le GCU n'est pas qu'un camp nudiste au Cap d'Agde. Donc, en famille, nous avons testé le GCU, plusieurs GCU, à Saint-Georges-d'Ardèche, sur l'île de Ré, à Lacanau, et aussi à Oyer-Plage, dans le Pas-de-Calais, entre Calais et Dunkerque. C'était génial. Ma copine de Belay passe tous ses week-ends au bord du lac d'Aigbelette en Savoie, grâce au GCU. Bon, à coup sûr, chacun trouvera son bonheur sur les littoraux, en montagne ou à la campagne. Bon, qu'est-ce qui fait l'originalité d'un camping GCU? Je vais tout vous dire. Bon, tout d'abord, les sites. Ces terrains achetés collectivement il y a fort longtemps, quand la pression sur l'immobilier était moindre, bénéficient de terrains très convoités aujourd'hui. Ensuite, le GCU, c'est une autre façon de faire du camping. Autogestion et tolérance sont les maîtres mots des vacanciers qui se retrouvent majoritairement en été. Des principes rappelés dans tous les GCU à l'occasion de la fameuse Assemblée de Caen. Donc l'Assemblée de Caen, on arrive avec son pliant, son verre et sa bouteille à l'heure convenue, car toutes ces assemblées de campeurs se terminent, vous l'avez deviné, par un apéro géant partagé. Bon, mais avant, cette réunion participative hebdomadaire est très sérieuse, puisque c'est lors de cet AG que sont prises les décisions. Changer le ballon d'eau chaude ou les litiges réglés, pas de voiture dans le camp après 23h, ou les animations de la semaine proposées par les campeurs, inscription à la sortie canoë ou concours de pétanque, et même les enfants proposent aussi des animations. C'est à cette occasion aussi que les tâches de la semaine sont réparties entre campeurs volontaires à tour de rôle. Chef de camp, trésorier, homme du jour, c'est-à-dire un groupe d'hommes et de femmes, qui assure l'entretien, le nettoyage une fois dans la semaine des sanitaires selon un protocole très précis. On fait aussi l'accueil des nouveaux campeurs et quelques tâches administratives. Bon, il faut reconnaître qu'on est loin des campings tape à l'œil qui proposent plein de services et d'animations à la mode. Ici, une table de ping-pong, une bibliothèque.
Au GCU, c'est le campeur qui est acteur de ses vacances, puisque le camping est autogéré. Mais le temps passe, et ces campings moins modernes, moins équipés que les campings privés, ont commencé à se vider, alors que l'offre touristique grandit. Alors, depuis 1991, vous êtes tous bienvenus au GCU. L'adhésion est ouverte à tous. Que reste-t-il de l'esprit du GCU aujourd'hui? Eh bien, oui, on reconnaît les profs. Profs de maths, profs de PS, moustachus souvent, couple de retraités de l'éducation nationale qui accueillent leurs petits-enfants dans la caravane qui passe l'été au GCU. Et comme dans tous les campings, il y a les habitués qui sont heureux de retrouver tous les ans leurs voisins, leurs amis de l'été. Le GCU offre donc une alternative à l'industrie touristique avec un hébergement pour des vacances à prix imbattable. Bon, si on accepte de donner son temps, une journée, pour travailler collectivement, laver le bloc sanitaire tous ensemble n'est plus une corvée. Et chacun est plus respectueux des lieux, limite sa consommation d'eau dans un souci d'économie. Alors oui, on aime le GCU. C'est un camping rustique, presque folklorique, que nous aimons. Gage de belles vacances en plein air. Alors, si on redémarrait le combi, bientôt, ouais, c'est une bonne idée. Bonnes vacances à tous!
Les amis, c'était l'émission de juin. On espère que vous aurez un peu voyagé avec nous. On vous souhaite de belles vacances. Et rappelez-vous, c'est le chemin qui compte plus que la destination. Allez, on se retrouve en juillet. Gros mimi, on termine avec Lily Cube, dédicace à Babouche.
Salut.
Bisous, bisous, salut.
Bonnes vacances. Bonnes vacances.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile,
les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire à la grecque ton vin dans le troupeau du Campari quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini. Capri, voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso.
Pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.